Alors, Catherine Pépin qui sera là dans quelques instants. Et notre invitée, depuis tout à l'heure, je cherche une image là pour vous faire comprendre un peu qu'est-ce que fait ce monsieur au parcours extraordinaire, Yves Saint-Laurent, qui est avec nous. Et finalement, je pense avoir trouvé, je pourrais dire qu'il est un archéologue de la musique. Est-ce que c'est bon, ça? Ah, il thumbs up, me fait-il, de la régie. Lui qui déterre des musiques ou des pans de la musique. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des 78 tours et les transfère sur CD. Mais il a une méthode, paraît-il, absolument extraordinaire et prisée partout dans le monde qui permet de déterrer des sons qui étaient enfoui dans le sillon. Il va nous raconter tout ça. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et de la musique, ben, il y en aura beaucoup au cours de la deuxième heure PM. Et ça commence tout de suite avec Fred Fortin. Et c'est aussi une façon d'accueillir notre prochain invité qui connaît ça, lui, les disques rayés. Yves Saint-Laurent, qui a une histoire, croyez-moi, assez extraordinaire dans le vrai sens du terme. Le monsieur était denturologiste. Il est par la suite devenu enseignant au primaire. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, chez lui, à Saint-Basile-le-Grand, entouré de 5 enfants qui ont tous moins de 9 ans, il restaure des 78 tours, c'est-à-dire qu'il déterre de la musique enfouie dans les sillons des vieux disques des années 30, 1920-1930. Monsieur Saint-Laurent, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Et c'est moi qui vous remercie d'être ici avec nous pour nous parler de ce curieux métier que vous pratiquez depuis peu, parce qu'en fait, c'est un peu un accident de
tout
parcours.
À fait.
Oui. Vous êtes mélomane,
oui,
passionné
longtemps.
Par les disques. Vous avez une grande collection de disques vinyles, une grande collection de disques 78 tours. Et lorsque vous vous êtes amusé à les transféré sur CD, ben vous avez découvert des choses, c'est-à-dire des sons que même les plus grands spécialistes de la musique au monde n'avaient toujours pas entendus. Alors, je veux savoir comment cet accident-là est survenu au départ.
Ben, étant collectionneur, je voulais à un moment donné ajouter à ma collection une pièce, je pense que c'est Beethoven ou quelque chose comme ça. Et là, j'avais un coffret 78 tours qui n'avait pas été encore transféré sur CD. Je le fais. J'en fais un second, j'en fais un troisième. Puis mon grand copain, Jean-Pascal Lamelin, chef d'orchestre et pianiste, vient à la maison et il me dit « Yves, ça, on l'avait. » J'ai dit « T'es pas sérieux, j'ai pas perdu tout ce temps-là à recoller les faces et tout. » Il dit « Non, 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 va sur ta troisième tablette, le meuble de gauche, le disque qui est bleu, c'est un malade. Sors-le et tu vas voir. » Là, on écoute ça et là, la face change. Il me dit « Yves, réalises-tu que ce qu'on entend, jamais on ne l'a entendu. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras pas des transferts de ce qui n'a pas été mis en CD, mais tu dois tout refaire le catalogue. » Là, on partait de loin. Mais ça, c'était avec un équipement très de base, rudimentaire et tout. Et après ça, on a perfectionné la technique par essai-erreur et tout. Là.
Donc, vous avez réalisé tous les deux que vous étiez non seulement en train de faire des transferts, mais comme je l'ai dit, en train de déterrer des sons.
L'image de tantôt de l'archéologue est très bonne. Sauf que dans ce cas-ci, on vient après les archéologues qui sont déjà passés sur le site. L'optique que moi j'ai par rapport à leur l'optique, c'est qu'eux autres, ils vont surtout essayer d'aller éliminer le bruit de fond qui fait partie de l'enregistrement.
Quand vous parlez d'eux autres, vous parlez de qui?
Les autres restaurateurs, les gens qui ont fait depuis 60 ans des transferts, parce qu'ils en ont fait d'abord sur vinyle et ensuite sur CD. Donc, eux, c'était de dire, un peu en sous-estimant la capacité d'écoute des gens, ils sont dit, on va un peu mâchouiller le son, on va éliminer le bruit de fond pour le rendre comestible, le rendre digérable aux gens. Le problème, c'est qu'en faisant ça, toute la magie qui se trouve dans des harmoniques, les mêmes harmoniques que le bruit de surface, sont complètement détruites en même temps.
Alors, là, votre approche est complètement différente.
Complètement
vous
différent.
Gardez le bruit de fond.
Moi, je m'en occupe même pas. Moi, c'est pas de dire comment l'éliminer. Moi, c'est de dire comment faire pour que cette musique-là ressorte au maximum. Les nuances, les interprétations, il faut qu'on aille les chercher. Et ce qui est fascinant comme découverte, c'est de se rendre compte que dans un 78 tours, la vitesse de rotation du disque, quand ils ont enregistré les fameuses pièces, est beaucoup plus précise, un peu comme le principe du VHS. Quand on voulait enregistrer une émission de télé, on a le choix de la vitesse d'enregistrement. Plus on enregistre rapidement, plus l'image est précise. Donc, le 78 tours versus le 33, c'est le même principe. Il y a une rotation de 78 fois par minute, contrairement à 33 quand il enregistrait pour 33 tours. Donc, l'image précise sonore est gravée avec un détail, un souci. Tout est là complètement, sauf qu'on ne l'avait pas entendu avant.
Mais qu'est-ce qui fait que ce détail-là se perd avec les décennies? C'est l'usure normale du disque?
En fait, non, c'est qu'on n'avait pas... pour faire une histoire technique très, très brève, c'est que quand on branche, par exemple, aujourd'hui, une table tournante dans un amplificateur, on doit absolument la brancher dans le phono. Pourquoi? Parce que si on branche dans le lecteur CD, le signal est trop faible. Mais à l'entrée de l'ampli, il y a une pré-amplification qui est faite selon des standards qu'on appelle le RIA, sans être technique. Et ces courbes d'égalisation-là ont seulement été découvertes et standardisées dans les années 50. Donc, avant, en 30, 20 coups, toutes les compagnies, chacune d'elles, avaient ses propres choix de paramètres. Donc, il faut d'abord trouver les bonnes courbes d'égalisation, trouver l'aiguille qui va être appropriée à tel ou tel type de sillon et surtout à telle usure du disque. Autre grosse chose qu'il faut faire, c'est trouver la vitesse. On parle de
la vitesse, c'est 78 tours.
C'est théorique, c'est 78 tours, sauf que c'est faux. J'ai, par exemple, dans un même coffret, je peux avoir un disque qui est à 76, un autre à 77. Sur un même, un même disque, les deux faces vont tourner à des vitesses différentes.
Ben voyons donc.
Et ça change, on appelle ça le pitch, ou ça change la tonalité. On parle pas d'un demi-ton ici. Pour avoir un demi-ton, il faudrait aller, par exemple, beaucoup plus loin. Mais ça change le huitième, le seizième de ton, et ce qui fait que l'harmonique est complètement changée. Mais la découverte, selon moi, c'est le trou. Ça a l'air un peu
trou.
Ça a l'air drôle de dire ça comme ça.
Le trou dans le milieu du disque.
Tout à fait.
C'est vrai?
Oui. Quand on lit un 33 tours et on le fait jouer sur une table, il y a un léger mouvement de gauche à droite de l'aiguille, mais comme ça tourne à 33 fois par minute, c'est pas trop pire. Mais quand c'est à 78 fois par minute, ce léger vacillement de gauche à droite fait que le son est petit et le son est faux. Très légèrement, vous allez me dire, mais il y a quand même une différence. Quand moi, je pousse le disque, quand j'ai une petite latitude dans le trou, bien évidemment, je trouve le centre. Et quand je ne peux pas le faire, je sors le disque, je l'enlève, je l'agrandis avec un ciseau. Et là, je suis le premier, et je sais que je suis le premier à enfin écouter ce disque-là correctement parce que personne n'avait agrandi le trou. Et là, le son qui est petit prend des proportions gigantesques. Et c'est à ce moment-là, le poil nous dresse sur les bras, les larmes nous coulent. Parce qu'on fait d'abord ça pour nous, ces affaires-là. On a fait des choix en se disant, si on est deux sur la planète à triper, on va triper. Mais sauf que là, il y a une demande et les gens se disent, comment vous avez fait? Ça fait 60 ans.
Ben oui, parce que là, le bruit court sur le monde que le gars qui a agrandi le trou, il est à Saint-Basile le Grand. Hey, c'est le premier qui a pensé mettre une lime dans le milieu du trou pour l'agrandir. Parce que ce que vous nous dites finalement, c'est que le trou n'est jamais parfaitement centré sur un disque. Mais là, c'est un travail de maniaque.
Oui, mais c'est là que la dextérité d'être denturologiste avant, d'avoir un, c'est là que ça aide. Parce que là, on parle de dixième et de vingt centièmes de millimètre.
C'est vrai que vous aviez l'habitude de jouer dans la bouche des gens avec des instruments précis.
C'est ça, on a changé un peu de section de la tête, mm-hmm. là, mais on s'en va des oreilles.
Alors, j'ai comme envie d'en écouter pour que tout ça devienne un peu plus concret pour mes oreilles.
Oui,
vous avez apporté, c'est ça.
Très bref, on parle de 15 à 20 secondes. Je vais vous mettre une pièce où c'est Prokofiev qui joue une pièce pour piano, donc une de ses compositions. Et ce qui est fascinant d'entendre, c'est que le premier... Et je n'ai pas choisi les pays pour comparer avec les miens. J'ai choisi ce qui se faisait de mieux sur le marché.
C'est-à-dire que là, vous faites du avant-après, c'est ça?
Exactement.
OK, donc on va, coup sur coup, on va écouter la même chose.
Mais déjà transféré par ce qui se faisait sur le marché commercialement, les meilleurs transferts jamais faits, je vous le fais écouter en A. Et tout de suite après, mon son.
Et qu'est-ce qu'on doit porter notre attention
sur quoi?
Vous
allez voir tout de suite que dans le premier cas, c'est intéressant parce que historiquement, on a enfin un compositeur qui joue, comme avoir Beethoven qui joue son Appassionata, c'est génial. Mais ça reste bof. On l'a, c'est historiquement le fun. Dans le deuxième cas, le même pianiste devient tout à fait génial. Il n'y a pas de note à côté. Vous ne croirez pas que c'est la même source. On y va. Donc, vous voyez ici, c'est subtil. Mais le pianiste, on peut dégager la main gauche, la main droite, les notes, on voit l'accompagnement, on voit la mélodie, tout est complètement clair. Et on pensait que Prokofiev, c'était un très grand, bien évidemment, compositeur. Mais là, on découvre que comme pianiste, c'était gigantesque.
Il y a effectivement une clarté, au niveau des harmoniques, surtout dans les aigus.
Oui.
Et on a vu aussi ce que vous nous expliquiez, on a entendu, en fait, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est que vous ne vous préoccupez absolument pas, effectivement, du bruit de fond, le grésil. Là.
Et je vais faire une image un peu. Imaginons qu'on a deux systèmes de son. On a un système de son à 2000$ et un système de son à 100 000$. Et ça exige, j'en ai entendu. Mais et peu importe le type de musique qu'on écoute, quand on a le système de son de 100 000$, on est à terre. On n'en revient pas. Mais imaginons, par contre, que pendant qu'on écoute le système de son à 100 000$, on est dans un chalet très douillet avec un foyer crépitant à l'arrière, un feu de foyer. Jamais ça va nous empêcher d'apprécier le système de 100 000. Notre oreille, qui est le meilleur filtre, elle est capable d'aller chercher le son et de se concentrer dessus. Et quand on mise sur le son, le bruit de fond n'est pas du tout à la même hauteur de fréquence et on ne l'entend plus. C'est sûr, dans un extrait de 15 secondes, comme ça, c'est pas évident, mais c'est vraiment, vraiment majeur comme découverte.
Autre exemple,
oui,
monsieur.
Là, on arrive dans un orchestre, donc c'est une très, très courte pièce où on a un concerto pour piano. Et là, concentrez-vous sur l'amplitude et la longueur des notes. Vous allez voir, dans le premier extrait, c'est bien. C'est probablement la plus grande version de cette œuvre-là. Et dans la deuxième version, les notes sont longues, le son devient large, et c'est là que l'effet de recentrer le disque donne un impact. Mmh.
L'amplitude dont vous parlez, très évidente avec les cordes.
Les cordes pincées, c'est frappant, c'est incroyable. Même les cuivres plus tard dans l'enregistrement, c'est fascinant.
Alors, vous le dites, vous l'avez dit, en fait, M. Saint-Laurent, on fait ça avant tout pour nous,
ouais.
Nous étant, les mélomanes,
ouais.
Les maniaques, comme j'aime vous appeler. N'empêche, vous en avez fait un métier, vous avez fondé, donc, effectivement, dans votre maison de Saint-Basile-le-Grand, un studio, le studio Saint-Laurent, c'est
ouais.
Tout simple comme nom. Qui sont vos clients? Qui ça intéresse, ce travail?
Ce qui est arrivé, c'est que les gens m'ont contacté par hasard, parce qu'on dit toujours qu'il faut se faire connaître. Comment on fait? Il faudrait se placer une pub dans telle revue spécialisée. Et là, par miracle, j'ai été contacté par des gens, et pas n'importe lesquels. On parle des sommités mondiales, autant en France avec Philippe Morin, à la BBC et tout. Et là, ce sont des gens qui, contrairement à la majorité des gens, non seulement ont déjà ces disques-là, mais les ont deux, trois fois en vinyle. Quand on parle de maniaques, c'est des maniaques. Les ont deux, trois fois en vinyle, les ont sur quatre ou cinq étiquettes en CD déjà. Et par curiosité, ils disent, je vais l'essayer.
Je vais essayer le son Saint-Laurent.
Tout à fait. Et là, ils se disent, mais ça se peut pas. Et là, ils m'écrivent, par exemple, comment t'as fait pour enlever le bruit de fond? C'est surprenant parce que non seulement il est resté là, mais on ne l'entend plus. Je me souviens entre autres d'un Japonais qui m'écrit sur le site en disant, hier, ma femme et moi avons pleuré toute la soirée parce que le compositeur Medner a joué pour nous dans notre salon. C'est que ces gens-là les maîtrisent, ont les partitions souvent dans les mains et tout, et sont complètement sidérés. Une des raisons pour lesquelles un public est un peu étroit en musique classique, il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, la première, c'est que c'est un peu élitique, mais on ne leur présente pas un son qui est toujours agréable non plus. Tu sais, quand on écoute un CD aujourd'hui, un CD commercial, c'est monté. On peut avoir, par exemple, pour 2 minutes de musique, 200 collages d'extraits sur 8 ou 10 prises. Consciemment, on ne l'entend pas, mais quand on l'écoute, inconsciemment, on n'est pas capable de se laisser prendre par l'élan. Il n'y a pas d'émotion qui passe. Dans le temps du 78 tours, il fallait être des géants, premièrement, parce que tu ne peux pas te reprendre.
Ça n'existait pas, ça, le montage.
Tu ne peux pas faire de montage, c'est du direct. Et en plus, quand on a une sonate ou une pièce, par exemple, un premier mouvement d'une sonate qui dure 12 minutes, il fallait d'abord que le musicien prenne la partition et se dise, OK, à quel endroit je peux arrêter de jouer? Parce qu'une phase durait 4 minutes et demie à 5 minutes. Donc, il choisissait, OK, j'arrête là, on tourne la face, on recommence l'enregistrement pour continuer la pièce. Ça fait quoi? Ça veut dire qu'il faut être conscient de la vitesse à laquelle on jouait, dans quelle émotion on était. Donc, ces gens-là, c'étaient les plus grands musiciens de l'histoire. Sauf que quand on les écoute aujourd'hui avec les autres transferts, on dit, c'est intéressant, ça s'ajoute à une collection, mais pourquoi ils étaient si renommés? Parce qu'on enlève les harmoniques qui créaient toute cette magie-là. Je me souviens, entre autres, d'un pianiste qu'on écoutait des œuvres récentes, et on ne comprenait pas pourquoi il jouait de façon aussi maniérée. Les notes arrivaient de façon illogique. Pourquoi? Parce que la fin de la note précédente, quand un pianiste joue, par exemple, il s'écoute jouer. Avec l'instrument qu'il a dans les mains, il va décider, selon le son qu'il entend, où il place la note qui suit la première. Mais ce lien-là, quand on l'enlève en coupant les harmoniques qui sont associées au bruit de fond, la note, la deuxième, quand elle arrive, on ne comprend plus rien. Et là, on ne comprend pas où il s'en allait avec les skis en bon québécois. Puis...
Donc, en tant qu'archéologue du son, je reviens à ça, ou de la musique,
ouais.
Yves Saint-Laurent, ce que vous déterrez, c'est non seulement les notes ou les harmoniques, ou en tout cas, bref, le son, c'est l'émotion.
Et plus que ça, j'ai un enregistrement, par exemple, où on entend un chien japper. On sait que dans le studio, le monsieur amenait son chien, puis là, pouf, on l'entend. D'autres fois, par exemple, on entend le camion dans la rue qui se promène et qu'on entend changer de vitesse. C'est que
camion dans la rue?
Ah, tout à fait, ça va jusque-là. La précision de gravure à 78 tours, c'est des découvertes. Je vous raconte une petite anecdote vite.
Oui, allez-y.
Un moment donné, George Nicholson m'appelle, très ému, en me disant, Yves, tu sais très bien que ma musicienne préférée, c'est la Banda Landowska, claveciniste et pianiste. J'ai écouté ton transfert et je ne savais pas, moi, qu'en plus du clavecin, il y avait en arrière-plan des instruments à cordes qui l'accompagnaient. C'est la première fois de l'histoire qu'on entendait dans le même disque qu'il y avait des instruments qui l'accompagnaient à l'arrière. Au même titre que pour la première fois, on entendait Rachmaninoff qui fredonne en jouant. Un peu comme Glenn Gould, tellement pris par l'émotion. Jamais personne n'avait pu entendre ça. 1925.
4 minutes par face à peu près. 4 à 5 minutes.
Ouais,
ça vous prend combien de temps faire un transfert?
Et c'est gigantesque. Parce que quand je dis que je ne filtre pas, il m'arrive d'enlever les tocs du jeu. Vous parliez tantôt de la chanson d'été et le disque usé. Faut quand même pas être complètement fou et complètement maniaque non plus. Il y a des disques qui doivent être détoqués. Donc, manuellement, j'ai passé, par exemple, une fois, 6 heures pour nettoyer 1 minute et demie de son.
6 heures?
Oui, parce qu'on entendait un totoc. Totoc. Totoc qui revient 78 fois minute, donc fois 4.
Bon, vous avez 5 enfants, je l'ai dit. Est-ce que vous avez peur qu'ils brisent votre équipement, vos 78 tours?
Ah non, ils sont habitués depuis qu'ils sont très, très jeunes. Et c'est drôle, c'est un barème pour mes transferts aussi.
Comment ça?
Parce que quand, par exemple, je fais des transferts, quand je trouve le centre et tout, c'est là que ça se met à chanter, ça se met à danser autour de la musique. C'est vraiment fascinant.
Vous parlez de l'émotion. Voilà la preuve. Les enfants sont le baromètre d'Yves Saint-Laurent, collectionneur et surtout restaurateur de 78 tours. Merci d'avoir partagé cette passion avec nous. Et pour consulter votre site, 78 expériences en un seul mot. 78 écrit en chiffres, là. Expériences, tout ça collé ensemble, .com. Et on se laisse avec quoi, M. Saint-Laurent?
Écoutez, un petit cadeau. En 1938, Pablo Casals, un violoncelliste de renom, nous fait les suites pour violoncelle seule de Bach. Et ici, vous remarquerez qu'on a un son audiophile extraordinaire. Le violoncelliste est en 3D dans notre salon.
Un transfert 78 tours réalisé par notre invité Yves Saint-Laurent.
Merci.